Le glas résonnait aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Sèvre, les obsèques du père Olivier, maire tué lundi par un réfugié hébergé au sein de sa communauté, ont été célébrées dans la commune de Vendée. 250 000 personnes attendues dans les rues de France demain pour protester contre le pass sanitaire. Un chiffre relativisé par le gouvernement au vu du nombre de personnes qui se font vacciner chaque jour. Un ancien gendarme recherché depuis 9 mois a été interpellé. Il était devenu une figure du milieu complotiste. Le football, deuxième journée de Ligue 1. Bientôt la deuxième mi-temps entre Lorient et Monaco, Loïc Folio.
Absolument, c'est la position du soir et surprise, Lorient mène 1 but à 0, but à la 31e sur pénalty de Terrell Moffi.
Loïc Folio, on vous retrouve en fin de journal. Et puis la météo, attention aux fortes chaleurs, nous dira Valérie Darmon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. La Vendée a dit adieu au père Olivier. Les obsèques du prêtre tué lundi ont été célébrées cet après-midi à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une cérémonie pour rendre hommage au religieux âgé de 60 ans en présence des paroissiens, des pères Montfortin de sa communauté et du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Charles Guyard.
14h30, sur le parvis de la basilique baignée par le soleil, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, bénit le cercueil du père Olivier Maire.
Lundi dernier, le père Olivier Maire est mort ici, en martyr de la charité.
Dans l'édifice, un peu plus de 600 personnes ont assisté à la cérémonie, dont le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, assis au premier rang à quelques mètres de Bruno Retailleau, sénateur LR vendéen. Après avoir longuement salué les autorités ecclésiastiques et civiles, Mgr de Moulin-Beaufort a laissé la famille du défunt exprimer sa tristesse, tout en retenue.
Olivier va terriblement nous manquer à tous. Mais, fidèle à son esprit, nous ne jugerons pas. Et nous nous inspirerons de lui pour surmonter cette épreuve.
Une épreuve qui a ému toute l'Église catholique, hein, comme l'a rappelé le supérieur général des missionnaires montfortins, Luis Augusto Stefani.
Jamais la congrégation avait reçu une quantité de témoignages, pas seulement en France, pas seulement en Europe, d'un partout dans le monde.
Et après une messe de 2 heures, la dépouille d'Olivier Maire a pris la direction du cimetière de la congrégation à une centaine de mètres pour y être inhumé dans la pure tradition des Montfortins. Saint-Laurent-sur-Sèvre, Charles Guyard, Europe 1.
Et le meurtrier présumé d'Olivier Maire, un Rwandais soupçonné d'avoir incendié l'année dernière la cathédrale de Nantes, est toujours interné en psychiatrie. Ce week-end sera le 5e consécutif de protestations contre le pass sanitaire. Près de 200 manifestations sont à nouveau prévues partout en France. 3 cortèges différents à Paris. Les autorités attendent 250 000 personnes à travers le pays. Un chiffre que le gouvernement cherche à relativiser, les protestataires étant moins nombreux que les Français qui se font vacciner. Écoutez Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité de nos confrères de BFM TV à la mi-journée.
Vous avez une écrasante majorité des Français qui est peut-être une majorité silencieuse parce que forcément, on en entend moins parler dans les débats politiques et médiatiques, mais qui fait le choix de la vaccination. Certes, il y a, la semaine dernière, il y a eu un peu plus de 200 000 personnes qui étaient dans la rue contre la vaccination ou le pass sanitaire. Mais de la même journée, vous aviez 2 à 3 fois plus de personnes qui se rendaient dans les centres de vaccination. Et vous avez ça chaque jour. Vous avez une partie des Français qui doutent, qui s'interroge le plus sincèrement du monde. Et je vais vous dire ça, moi, je peux l'entendre. Et c'est pour ça que ces échanges sont importants, que la pédagogie est importante, pour les convaincre, pour lever ses doutes, pour lever ses inquiétudes. Et enfin, vous avez une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique de tout ça, qui cherche un peu de gloriole médiatique ou politique autour de cette question du vaccin et de l'épidémie. Et ça, moi, je trouve ça totalement irresponsable. Et moi, je considère que mon rôle, ma responsabilité, c'est pas d'aller convaincre Florian Philippot ou Francis Lalanne, qui de toute façon sont dans l'instrumentalisation politique. C'est de convaincre les Français qui doutent le plus sincèrement du monde, qui se posent des questions, et ils ont le droit de se poser des questions. Et pour le coup, je ne ménagerai jamais mes efforts pour leur répondre.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et du côté des chiffres, le nombre de malades du Covid-19 continue d'augmenter, de même que les hospitalisations. 836 patients de plus en 24 heures, 188 admissions supplémentaires en réanimation. Pas de surprise ce soir dans la décision du Conseil constitutionnel. Les sages de la rue Montpensier ont jugé conforme à la Constitution 2 textes qui avaient suscité beaucoup de débats. Ils valident l'essentiel de la loi controversée sur le séparatisme qui vise au respect des principes de la République. Ils ont censuré 2 dispositions. La première vise à ne pas suspendre les activités d'une association lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de dissolution. L'autre article retoqué est celui concernant les retraits des titres de séjour accordés aux étrangers. l'étranger s'ils ont manifesté un rejet des principes de la République. Concernant la loi climat, que les Verts et la gauche jugent pas assez ambitieuse, les sages ne se prononcent pas sur le fond, estiment que les députés n'ont pas été précis sur leurs différents recours. Une décision décevante pour Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2022.
Moi, j'aurais préféré évidemment qu'ils prennent une décision actant le manque d'ambition de la loi. En fait, pourquoi ce recours avait été posé, c'est que cette loi climat ne permet pas d'atteindre les objectifs que la France s'est elle-même fixés de réduction des gaz à effet de serre. Or, on voit que le réchauffement climatique s'emballe, on a de nombreux signes cet été de cet emballement. On a le rapport du GIEC qui nous a indiqué combien nous étions dans une situation dangereuse. Et la France, non seulement a des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre inférieur à ceux de l'Europe, mais en plus la loi climat ne permet pas d'atteindre les objectifs de la France qui sont déjà inférieurs à ceux de l'Europe. Donc là aujourd'hui, la France est en retard sur la lutte contre le dérèglement climatique et doit absolument passer un cap et avoir de l'ambition, parce que c'est en France que doit se passer la lutte contre le dérèglement climatique. C'est en France qu'a été signé l'accord historique de la COP21 et c'est en France qu'on doit montrer l'exemple.
Sandrine Rousseau, candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle de 2022 avec Hélène Terzian. Dans l'actualité également, l'arrestation d'un ancien gendarme recherché depuis 9 mois par la police, surnommé Stan ou le Zorro Blanc. Christian Maillot était devenu une figure du milieu complotiste. Il a été interpellé à Sorbier dans la Loire près de Saint-Étienne et placé en garde à vue. Cet ancien parachutiste faisait notamment l'objet d'une enquête pour appel à la désobéissance de militaires, Justin Morin.
Oui, Christian Maillot est considéré comme l'un des derniers leaders complotistes de la mouvance du Conseil national de transition de la France. Il est suspecté avec d'autres membres d'avoir appelé au soulèvement contre le gouvernement. Plus précisément, celui que l'on surnomme le Zorro Blanc est accusé d'avoir tenté d'intimider des élus, des magistrats, des médecins à rejoindre son mouvement, sous peine, je cite, de passer devant un tribunal militaro-populaire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de cette mouvance, Christian Maillot est présenté comme le chef de leur propre police, appelée la Néopole. D'ailleurs, il est aussi poursuivi pour infraction à la législation sur le port d'armes, faux et usage de faux. Des policiers et des gendarmes ont aussi été approchés afin qu'ils rejoignent leur mouvement. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, était recherché depuis le mois de novembre. À ce moment-là, il venait de sortir de prison. Christian Maillot avait été condamné à 4 ans d'emprisonnement pour une affaire de tentative d'enlèvement d'enfants, prétendument victime, je cite, d'un réseau pédophile sataniste.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité internationale, l'avancée des talibans aux portes de Kaboul à seulement 50 km. Les Occidentaux évacuent leurs ressortissants et diplomates. Malgré le contexte, Washington estime ce soir que la capitale afghane ne se trouve pas dans un contexte de menace imminente. L'OTAN s'est réunie aujourd'hui pour discuter de la situation et l'Alliance a affirmé qu'elle soutiendrait autant que possible le gouvernement afghan. Les talibans contrôlent maintenant près de la moitié des capitales provinciales. Aurélien Pradier est le président du groupe d'amitié France-Afghanistan. Il assiste impuissant à ce qui se passe et se dit consterné.
Un regard désespéré et inquiet. La chute de l'Afghanistan semble de plus en plus inexorable. Et puis une forme de désolation. Parce qu'au fond, ce à quoi nous assistons, au-delà de la situation afghane, c'est à l'impuissance totale des grandes puissances de l'Occident. Je suis consterné, pour tout vous dire, de voir à quel point il y a une forme de fatalité qui s'est installée dans la situation internationale. Au fond, on compte jour après jour les villes, les districts afghans qui tombent aux mains des talibans. Je suis très inquiet de ce discours qui s'installe où on commence presque à banaliser les talibans. J'entends ici ou là certaines grandes puissances internationales dire au fond que les talibans ne sont pas si terribles que ça. Même si les talibans pendant quelques mois vont avancer à pas plus ou moins masqués, ça n'empêchera pas le fait que deviendra ou redeviendra en Afghanistan une base arrière de toutes les formes de terrorisme et de philosophies les plus sombres qui soient pour le monde entier.
Aurélien Pradier, président du groupe d'amitié France-Afghanistan. La situation s'apaise en Algérie sur le front des incendies. La majorité des feux de forêt qui ravagent le nord du pays sont en passe d'être maîtrisés. Les pompiers en ont éteint 76 sur une centaine répertoriées. Depuis lundi, au moins 71 personnes ont péri dans les flammes. Du mieux également en Grèce, les feux ont finalement été maîtrisés. Il n'y a plus de front actif majeur, a fait savoir le porte-parole des pompiers grecs. Québec, 116 000 hectares ont brûlé en 2 semaines. Des incendies favorisés par la sécheresse et la canicule. Et selon l'Agence nationale océanique et atmosphérique américain, le mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. C'était il y a 3 ans en Italie, le 14 août 2018, le pont Morandi à Gênes s'effondrait de façon aussi spectaculaire que dramatique, faisant 43 morts. Un nouveau viaduc a été inauguré l'été dernier, mais la catastrophe est encore dans tous les esprits aujourd'hui, en particulier pour les familles des victimes, alors qu'un procès doit commencer à l'automne prochain. Blandine Hugonnet.
Depuis 1 an, les Génois circulent tous les jours sur ce nouveau viaduc qui se dresse désormais entre les 2 versants de la métropole italienne. Une structure à 45 mètres de hauteur construite en un temps record sur les ruines du pont Morandi. Sous les énormes piliers de béton, un parc pour enfants vient d'être inauguré. À côté, on lance dès demain la reconstruction du quartier qui avait dû être évacué et dynamité près du pont. La vie reprend, mais ça n'enlève rien à la douleur encore très vive pour les familles des victimes. Voilà ce que répond Egle Possetti il y a 3 ans tout juste. Elle a perdu tragiquement sa sœur et sa famille dans l'effondrement du viaduc de Gênes.
Évidemment, la douleur est encore très forte et un mémorial va être construit pour se souvenir de ce qui s'est passé, pour que ça n'arrive plus jamais et aussi pour que justice soit faite. L'enquête a largement révélé la gravité de la tragédie, mais nous ne trouverons pas la paix tant que toute l'affaire ne sera pas terminée.
Manque d'entretien, atteinte à la sécurité, homicide involontaire, 59 accusés sont mis en cause au total dans l'écroulement du pont Morandi et le procès commence le 15 octobre prochain. En attendant, comme chaque 14 août désormais, 43 coups de cloche résonneront demain en hommage à chaque victime après une cérémonie et une minute de silence sous le nouveau viaduc de Gênes. Rome, Blandine Gonnet, Europe 1.
On passe au sport, le football, 2e journée de Ligue 1, Lorient-Monaco. Où en est-on, Loïc Folio?
C'est la 55e minute ici au Moustoir et pour l'instant, on peut dire que c'est une véritable contre-performance pour les hommes de Niko Kovac, pourtant dominateur dans le jeu parce que les joueurs de la Principauté sont menés 1-0 depuis la 31e minute et un pénalty transformé par Terem Moffi. Alors à l'origine de cette sanction, eh bien c'est une faute que l'on peut qualifier de grotesque de Jacobs, le défenseur monégasque, sur Moffi qui s'est donc fait justice dans la foulée. Quelques minutes auparavant, c'est Monaco qui aurait pu ouvrir le score sur des essais de Voland, une frappe bien captée par Nardi d'ailleurs, le portier l'orienté, puis de Diop qui n'a pas réussi à attraper le cadre morbihanais. Et à l'instant, eh bien Monaco a eu la balle d'égalisation, mais la tête de Pavlovic sur corner est passée juste à côté de la cage du gardien breton. C'est donc la 55e minute ici à Lorient et pour l'instant la bonne opération pour les Morbihanais qui mènent 1-0.
Merci Loïc Folio. L'événement de la Ligue 1, ce sera demain, PSG Strasbourg. Lionel Messi sera présenté au Parc des Princes avant la rencontre. Une arrivée qui pose question sur l'avenir de Kylian Mbappé au PSG, Jean-François Pérez.
Oui, c'est désormais le dossier sensible de l'été parisien. Tout le monde au club jubile depuis la signature spectaculaire de la star argentine. Mais au milieu de ces célébrations, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire l'an prochain. Le champion du monde français laisse planer le doute. Il était l'incarnation des ambitions qataries pour le PSG. Il se retrouve pour l'heure dans l'ombre du géant Messi. Mercredi, Nasser Al-Khelaïfi a sèchement exclu toute idée de départ immédiat. Même son de cloche cet après-midi du côté de l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
Je ne vais pas commenter les propos de mon président. C'est une question de respect de la hiérarchie. Même chose pour mon directeur sportif. De toute façon, il n'y a rien à ajouter. Kylian est notre joueur. Il n'y a rien d'autre à dire.
Alors ce matin, à l'entraînement, Mbappé était juste un observateur des retrouvailles Messi-Neymar, un duo qui ne cachait pas sa complicité. Le Français s'est montré très sobre ces derniers jours vis-à-vis de l'arrivée de Messi sur les réseaux sociaux, désormais baromètre numéro 1 des humeurs des champions. Dans une interview à un média sud-américain, André Di Maria s'est dit persuadé que Mbappé allait rester à Paris. Quant à la presse espagnole, elle évoque une offre de 120 millions d'euros du Real Madrid, désireux de le récupérer dès cet été. Dans tout cela, le joueur pourrait s'exprimer lundi pour éclaircir une situation passablement embrouillée.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. On s'intéresse à présent à vos conditions de circulation.
Europe 1. Le radioguidage sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
À nouveau un grand week-end de départ. Le gros des difficultés ce soir se situe toujours en direction de la Méditerranée sur la 7 entre Valence et Avignon. Des bouchons également sur la 57 à la Valette du Var près de Toulon. Demain sera plus difficile. La journée sera orange sur l'ensemble du territoire pour les départs et rouge près de la Méditerranée. Rouge également pour les retours dans tout le pays. Les difficultés vont notamment se concentrer entre l'Italie et l'Espagne dans les deux sens sur les autoroutes à 7, à 8, à 9, à 61 et à 62. La journée de dimanche, en revanche, est classée verte au niveau national. On jette un coup d'œil à la météo. 5 départements toujours en vigilance orange à la canicule. La Haute-Loire, la Drôme, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et le Var. Prudence donc sous les fortes chaleurs, Valérie Darmon.
Effectivement, ce samedi matin, il fera encore à l'aube 10 à 14 degrés de la Bretagne-Normandie aux frontières belges, 14 à 19 ailleurs, jusqu'à 24 dans le sud et même 26 à Cagnes-sur-Mer. Les maximales qui vont grimper jusqu'à 25 près de la Manche, sur le reste de la moitié nord jusqu'à 33. Et au sud, le thermomètre qui oscillera entre 34 et 38 degrés, localement en terre provençale et gardoise, les 40 degrés qui seront atteints encore. Côté ciel, on connaît de nombreuses brumes ou des grisailles qui vont se former au lever du jour, notamment en Bretagne, le long de la Manche, ainsi que du Pays Basque en allant à l'Auvergne et vers la Bourgogne-Franche-Comté. Tout cela va se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies. Sur les Pyrénées, des averses orageuses sont toujours possibles l'après-midi et ailleurs, le ciel est toujours aussi bleu.
Merci Valérie Darmon. À la une de vos journaux, demain aux portes de Kaboul, les talibans défient l'Amérique pour le Figaro, galvanisés par la reconquête de leur fief de Kandahar. Les étudiants en religion poursuivaient vendredi leur progression implacable en Afghanistan et se trouvaient à 50 km de la capitale. Chômage longue durée, le plan du gouvernement en une du Figaro Économie. Elisabeth Borne présentera en septembre un nouveau dispositif pour aider les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et puis la ruée sur les tests Covid en pharmacie, c'est à lire en pages 4 et 5 de l'Éco-Républicain.